autostopem, jedziemy autostopem.
Aujourd'hui, on vous emmène au bout du monde en autostop. Rencontre avec Marion Roy, étudiante en fin de Master 2 en muséologie et muséo-expographie et jeune professionnelle muséographe dans le domaine de la conception d'expositions de société et d'art contemporain. Elle nous parle de son exposition « Voyage au bout du pouce ».
Je suis entrée dans ce master juste après la période Covid pour avoir une expérience, des expériences concrètes et pratiques du monde de la muséographie et de l'exposition. Avant ça, j'avais déjà plusieurs projets en tête, mais non concrétisés, d'expositions sur le voyage de manière plus générale, plutôt type exposition d'art contemporain sur le concept du voyage, plus particulièrement sur le voyage raté qui m'intéresse beaucoup. Et en arrivant dans ce master, on a donc ce projet sur 2 ans, 1 an et demi selon le moment où on choisit ce sujet. Et j'ai recentré, disons, mon sujet en me disant que c'était plus simple de rentrer par un type de mobilité particulière, l'autostop. Et ce choix s'est fait parce que je suis moi-même autostoppeuse et que j'ai plusieurs expériences de voyages un peu longs en stop. Je me suis intéressée à ça pour le côté militant, plus ou moins conscient de l'autostop et la porte d'entrée que ça permet d'avoir sur des questions sociales plus larges, donc sur nos rapports à la consommation, au déplacement, aux rapports humains en général en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas changé d'avis ensuite sur ce sujet.
Bah du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'exposition? Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette expo?
Donc c'est une expo qui commence par les clichés sur le stop qu'on entend souvent, donc les petites phrases de l'entourage quand on annonce qu'on fait du stop ou qu'on va partir en voyage en stop, du type « mais ce serait tellement plus simple si tu faisais du covoiturage » ou alors « mais t'as pas peur, c'est fou, tu vas te faire violer », ce genre de phrases très très récurrentes en fait, pas du tout originales. Et aussi le classique « mais ça marche encore le stop ?» Et donc, à partir de là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'évacuer ces questions pour éviter tout simplement que le visiteur reste avec ces questions en tête tout du long de l'exposition. Ça permet de mettre un peu le contexte. Et à partir de là, donc, on a une sorte de remise à plat ensuite de qu'est-ce que c'est l'autostop, quels en sont le jargon, les stratégies et les lieux propices et puis même l'équipement. Donc, on a un petit peu une sorte de séquence remise en contexte de qu'est-ce que c'est le stop et comment ça fonctionne. Et après cette mise au point, on va dire, on peut rentrer un peu dans le vif du sujet qui est c'est les valeurs politiques, la portée politique de l'autostop, dans le sens non pas politique-politicienne, mais vraiment la portée de nos gestes du quotidien. Donc ces valeurs-là, ça, c'est notamment la lenteur revendiquée, la dimension sociale du stop, le choix du hasard pour nos déplacements. Et ça présente un petit peu en creux nos façons de nous déplacer, nos façons de consommer et de nous placer par rapport notamment au modèle de la voiture individuelle, de l'individualisme et de la vitesse qui sont vraiment encore très très prégnante dans les sociétés, en tout cas occidentales, dans lesquelles on vit.
Tu as recueilli des témoignages aussi que tu montres dans ton expo ?
Oui, alors ça a permis d'une part de construire le propos. L'idée de cette expo, c'est de donner la parole à des personnes qui pratiquent le stop. Et ça m'a permis de déjà me rendre compte de la diversité des manières de faire du stop. Puisqu'il n'y a vraiment pas deux personnes qui ont les mêmes stratégies ou les mêmes raisons de se mettre au bord d'une route pour partir en stop. Et ensuite, c'était aussi dans l'idée d'avoir une partie réellement audio pour entendre des témoignages. Donc on a une petite section dans la suite de l'expo qui traite plus particulièrement de la rencontre, qui permet d'avoir des petites anecdotes positives qui changent un peu de toutes les anecdotes glauques qu'on peut entendre dans les médias et les faits divers.
Tu as choisi de reprendre aussi certaines créations culturelles, donc en l'occurrence des planches de BD. C'est un choix aussi, c'est des planches de BD qui traitent de l'autostop, donc c'était important pour toi aussi de montrer tout le panorama de l'autostop.
Oui, et au-delà de ça, c'est clairement lié à ma propre sensibilité de ce qui me plaît dans les expositions. Et ça permet d'avoir donc cette dimension d'expo de société, tout en ayant un point de vue un peu plus sensible et artistique. Donc il y a ces planches de BD qui sont issues de La France sur le pouce, une BD qui m'a beaucoup touchée, puisqu'elle avait ce focus sur les rencontres qui ont lieu en autostop et la dimension fortement sociale de cette pratique. Il y a aussi d'autres artistes qui sont aussi autostoppeurs, autostoppeuses, qui interviennent, donc un photographe, Antonin Borgnon. On a aussi une carte qui fait aussi office de carnet de voyage, donc de Maria Woods, je ne sais pas trop comment on prononce ça, une artiste polonaise. Il y a aussi donc les photographies de conducteurs-conductrices de Sylvain Prudhomme, qui est écrivain et journaliste. Et puis un carnet de voyage d'une initiative d'un voyage sans argent et chez l'habitant, c'est un projet qui s'appelle Voyage et nous. Et j'oublie, je pense, oui, Sabrina Schwab, qui du coup a fait une création graphique sur les gestes des conducteurs et conductrices qui permet d'entrer en communication avec elle dès le bord de la route, par les petits gestes qu'ils nous font pour nous dire qu'ils tournent là ou qu'ils peuvent pas s'arrêter pour nous, mais qui permettent de rendre l'attente un peu moins longue aussi.
Nous sommes toujours avec Marion Roy. On évoque avec elle l'autostop, sa pratique et son impact.
On peut dire que l'autostop, c'est une manière de se placer dans une situation volontaire de demande d'aide vis-à-vis des conducteurs et conductrices qu'on croise, qui permet la rencontre et qui va au-delà d'aller d'un point A à un point B, et qui permet surtout de se mettre dans une situation de contact social qui existe un peu nulle part ailleurs, qui permet de sortir de sa zone, de sa bulle sociale habituelle, pour rencontrer plein de gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer sans s'être mis dans cette situation de hasard. C'est une longue définition, mais voilà.
Est-ce que tu dirais, toi personnellement, que c'est facile de faire de l'autostop en France ?
Je pense que oui, parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça s'est très bien passé, et c'était assez rapide, j'ai rarement été coincée sur le bord de la route. À part peut-être une fois, parce que ça dépend des emplacements qu'on choisit aussi. Mais oui, je pense que c'est facile. J'ai lu aussi des témoignages de personnes qui expliquaient que c'était l'un des lieux où c'était assez aisé de se faire prendre en stop. Après, ça dépend tout à fait de la configuration dans laquelle on est. Généralement, quand on est une femme seule, c'est très facile d'être prise en stop. Quand on est deux femmes, on considère toujours qu'on est seule, donc ça fonctionne toujours. Après, deux hommes ou des personnes racisées, des personnes qui sont trans, par exemple, voilà, ça, c'est très. On est dans une autre configuration. C'est quelque chose qui, malheureusement, est basé sur l'apparence, le stop, puisqu'on se fait jauger en deux secondes, parce que c'est le temps qu'a un conducteur pour s'arrêter, enfin pour décider de s'arrêter sur le bord de la route. Donc forcément, il y a un petit peu un délit de faciès qui existe, mais bon, de fait, le temps d'attente varie beaucoup selon notre apparence et notre passing, on va dire.
Alors justement, tout à l'heure, tu parlais des clichés. Là, maintenant, tu parles des femmes qui font de l'autostop. Il y a une question qui revient très souvent et je vais la poser tout simplement. Est-ce que c'est dangereux pour les femmes ?
Alors, c'est quelque chose qu'on m'a déjà posé, des visiteurs, visiteuses en fait, que je souhaitais aborder dans un module de l'expo, et j'ai choisi de ne finalement pas le faire, puisque je pense que ça mériterait vraiment une expo à part entière. On ne peut pas nier l'existence d'un risque quand on fait du stop, d'autant plus sans doute quand on est une femme, puisque ça peut être équivalent au harcèlement qui existe dans le quotidien. On n'est pas encore dans une société tout à fait déconstruite. Ensuite, il y a des chiffres qui sont un peu manquants sur la pratique de l'autostop, puisque c'est une pratique volatile et un peu insaisissable, qui échappe un peu à des études ou à des contrôles spécifiques. Mais on a des chiffres sur les violences domestiques qui existent, qui montrent que le risque aujourd'hui n'est pas nécessairement dans la rue ou à l'extérieur. En tout cas, il n'est pas majeur par rapport à ce qu'on peut vivre dans notre propre maison, dans notre entourage proche. Et de fait, voilà, c'est pas dans une station-service en particulier ou dans une voiture qu'on peut avoir plus de risques que dans son propre appartement avec son propre conjoint, par exemple. Ensuite, oui, il y a des préparations mentales qui peuvent être, qui peuvent en tout cas rassurer les personnes qui douteraient un petit peu de leur sécurité dans une situation de stop. Après, évidemment, quand on le sent pas, vaut mieux pas en faire, tout simplement. Mais il y a des formations à l'autodéfense féministe qui existent, notamment à Montpellier, l'association Lorelei, qui fait des formations pour les femmes qui souhaiteraient apprendre des techniques d'autodéfense, qui sont pas nécessairement physiques, hein, mais juste une préparation mentale pour savoir comment réagir quand on est dans un habitacle avec un inconnu qui commence à te faire des avances ou des propositions. Ça, c'est une situation qui peut tout à fait exister, donc qui permet de réagir vite et fermement et de dire clairement qu'en fait, non, on n'est pas intéressé. C'était pas parce qu'on avait une certaine prétention sexuelle ou quoi que ce soit qu'on était au bord de la route, mais bien parce qu'on voulait aller à un endroit ou faire du stop, voilà, tout simplement. C'est juste, je pense, important de savoir affirmer ce qu'on veut et ce qu'on n'a pas prévu de faire et mettre bien ses limites. Et ça s'apprend, en fait.
Est-ce que, pour exemple, justement, pour casser un peu ces clichés, tu peux nous partager l'un de tes meilleurs souvenirs personnels de la pratique de l'autostop ?
Je pense que mon meilleur souvenir, c'était sans doute un routier à la frontière avec la Roumanie qui nous avait pris, alors qu'en fait, il n'avait absolument pas de place dans sa cabine, mais qui donc en fait, c'était un camion qui transportait des voitures. Donc, il nous a proposé, après moult négociations, parce qu'il pensait que ce n'était pas assez confortable, etc. Mais nous, on voulait juste partir de cet endroit. Et en fait, ça s'est avéré génial parce qu'on est monté dans la voiture de ce camion, ce qui est sans doute assez illégal et peut-être dangereux, mais qui était très sympathique parce que on avait un peu l'impression d'être les rois du monde à ce moment avec mon binôme sur ce trajet-là. C'était une voiture de course orange, je me souviens, donc c'était vraiment quelque chose d'assez spontané et peut-être un peu inconscient, mais finalement un très chouette souvenir.
Est-ce que du coup, indéniablement, on crée du lien en faisant de l'autostop?
Je pense que si on n'est pas dans cette optique-là, on peut très bien décider de juste aller à un endroit, mais généralement, de fait, cette position qu'on a en tant qu'autostoppeur ou autostoppeuse de demander à quelqu'un de nous aider fait qu'on va être davantage dans une posture d'écoute et de partage pour peut-être, donc contrairement au covoiturage par exemple, où il est facile de se dire qu'on peut tout simplement lire ou dormir puisqu'on a payé un service. Là, à l'inverse, on est plutôt dans une situation d'ouverture à l'autre. Et j'ai des interviewés qui m'ont fait part de certaines situations où justement ils avaient écouté pendant plusieurs heures des conducteurs qui se livraient assez facilement, puisqu'en fait on est dans une situation où on se reverra sans doute jamais, et c'est plus simple de livrer des secrets ou des situations complexes, de consulter la personne qui finalement disparaîtra sans doute de notre vie l'heure d'après. Pour parler de choses assez intimes, c'est une bonne configuration. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein d'anecdotes que j'ai récoltées qui parlent de cet échange spontané qui existe en stop. Donc effectivement, c'est l'intérêt de cette pratique, c'est la mise en relation des personnes qui se connaissaient absolument pas la minute d'avant. En fait, à chaque fois que je fais du stop, je ressors pleine d'énergie, de positivité et surtout ouais, de foi en l'humain, parce que ça permet de voir le bon des personnes qui s'arrêtent pour simplement t'aider.
Et il y a d'autres raisons de s'arrêter en tant que conducteur ou conductrice ?
À part pour soulager sa conscience et faire sa BA. Ben, je pense que la raison la plus souvent évoquée, c'est que les personnes ont fait du stop dans leur jeunesse ou font du stop actuellement dans d'autres moments de leur vie. Et c'est une forme de solidarité qui se met en place, en fait, qui est totalement tacite et pas du tout écrite nulle part. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu pas mal de fois. C'est une sorte de... dans une forme de rendre ce qu'on nous a déjà donné quand on finit par conduire ou qu'on a une voiture par ailleurs. Quand on est dans cette posture de conducteur, on a envie de venir en aide à des gens, sachant que ça pourra nous arriver de nouveau d'être dans la posture inverse, donc d'autostoppeur ou d'autostoppeuse.
On peut aussi faire de l'autostop pour des raisons écologiques, parce que justement c'est une mobilité durable, donc ça peut être une bonne raison aussi.
Oui, alors il y a toujours ce contre-argument qui peut nous être présenté en nous disant « mais en fait, tu valides le modèle de la voiture en faisant de l'autostop ». Je le vois plutôt à l'inverse, comme le petit grain de sable qui vient se mettre dans le rouage du modèle dominant de l'autosolisme, donc la voiture individuelle, qui est encore très très importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça permet de dévier un petit peu le regard et les possibilités sur les mobilités. Et clairement, on consomme vraiment pas grand-chose quand on partage la voiture de quelqu'un qui ferait ce trajet de toute façon. On est assez gagnant, puisqu'en plus, on en ressort avec un échange humain.
Dans ton expo, tu parles aussi du covoiturage. Il y a une grosse différence entre l'autostop et le covoiturage ?
Il y a souvent une filiation qui est établie entre les deux pratiques. Donc souvent, le covoiturage est un peu placé comme la suite logique de l'autostop. Alors qu'en fait, c'est déjà ces deux pratiques qui ont plutôt... Je dirais que c'est une sorte de hiérarchisation des priorités. L'autostop, c'est plutôt une idée de mettre en avant le lien social, de voyager de manière libre en prenant son temps et de partager des choses avec les personnes rencontrées. Il y a d'autres choses, mais on pourrait en parler des heures. Et pour le covoiturage, il y a un service financier en fait qui entre en jeu. Et à partir de là, donc c'est pas la même relation à la consommation. Ça distend un petit peu la relation humaine qui existe, puisque on est dans un rapport d'échange financier, donc quelque part un rapport économique capitaliste. Et il y a aussi le rapport au temps et à la productivité qui est différent, parce que quand on utilise un covoiturage, c'est un peu l'équivalent d'un train, quoi. On a envie d'arriver à un point B à une heure donnée qui a été fixée en avance. Et puis en plus, on sait sur qui on tombe, puisqu'on a vu son profil sur Internet en amont. Alors que dans l'autostop, il y a le hasard qui est beaucoup plus important. On ne sait pas du tout la minute d'avant qui va nous ouvrir sa porte.
Tu parles d'un rapport financier au covoiturage. Du coup, moi, je me pose une question. Pourquoi il y a de plus en plus de covoiturage et de moins en moins d'autostop ?
Je pense que c'est la question du rapport au confort et à la sécurité qui fait que on a un peu cette injonction à être dans une sursécurité permanente, et c'est très difficile de s'en départir et de décider qu'on va remettre notre destin dans les mains du hasard, ne serait-ce que sur un petit trajet. Donc dans le covoiturage, cette donnée existe en tout cas, mais va du coup être un peu moins importante. Donc je pense que les freins sont nombreux et de plus en plus dans une société assez sécuritaire, qui fait que c'est difficile de dire qu'on va donc déjà se mettre potentiellement en danger, puisque c'est ce qu'on nous répète constamment, et ensuite se mettre dans une situation d'inconfort, puisqu'on ne sait pas trop quand on va arriver, on est sur le bord de la route, peut-être qu'on va dormir sur le bord de la route, on ne sait pas spécialement si on va pouvoir faire ce trajet dans le temps qu'on avait estimé, et c'est peut-être pas exactement le modèle qu'on a comme qu'on nous présente au quotidien, et c'est peut-être difficile de se mettre dans cette situation de marginalité, puisque en plus on n'entend plus trop parler de l'autostop en fait. Ça nous semble être une pratique un peu j'allais redire marginale, c'est le mot en fait.
Comment faire pour redorer l'image de l'autostop ?
En faisant des expositions. Non, mais en vrai, je pense que c'est une autre solution plus concrète. C'est peut-être de se rendre compte du maillage associatif qui existe totalement en Europe. Il y a pas mal d'associations qui sont souvent étudiantes, mais pas uniquement. Et donc il y a une petite carte dans l'expo qui montre donc tous les petits points où il y a des associations dans des villes en particulier qui soit ont existé, soit sont encore actives aujourd'hui et qui organisent par exemple des courses en stop et qui permettent de se rendre compte que c'est aussi une pratique ludique et qui peut procurer beaucoup de plaisir. Et qu'en fait, on peut faire assez facilement, puisqu'on a besoin de rien pour faire du stop. Donc, il suffit juste de se lever avec la conviction que ça va fonctionner. Et peut-être que ça permet de commencer accompagné avec des personnes qui ont déjà fait des trajets, qui peuvent donc nous donner des conseils un peu sur la manière de s'y prendre, et les bons endroits, les bonnes stratégies et tout ça. Même si, en fait, on se rend vite compte qu'on trouve ses propres stratégies en stop. Mais oui, je pense que passer par des événements comme ça qui montrent aussi que l'autostop existe et est pratiqué par plein de gens de profils différents, d'âges différents, ça peut débloquer un petit peu toutes ces peurs qu'on a et qui nous empêchent un peu de s'y mettre.
autostop. Siadaj bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł, będzie wiózł nas dziś ten wóz.
C'était Marion Roy pour l'exposition Voyage au bout du pouce, une exposition visible pour tous et toutes au bâtiment K de l'Université d'Artois à Arras. C'est jusqu'au 10 novembre inclus, en semaine, aux horaires d'ouverture de l'université.
Autostop, autostop, siadaj bracie, dalej hop, rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz.